France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'emploi résiste en France, c'est la bonne nouvelle écho du jour. Le taux de chômage stable au premier trimestre, malgré les plans de licenciement qui s'enchaînent. Explication à suivre. Et puis nous découvrirons une méthode de recrutement inédite en Picardie. À suivre encore, arrêtez de fermer des maternités pour faire baisser la mortalité infantile. Les députés ont voté cette mesure hier soir. Nous demanderons son avis au grand gynécologue Israël Nizan. Il sera notre invité. Nous irons également à Istanbul. Russes et Ukrainiens doivent s'y rencontrer aujourd'hui. Et nous parlerons aussi, bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
De ces influenceurs masculinistes de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux.
Oui, comme Adé Laurent, près de 2 millions d'abonnés sur TikTok, mais banni de la plateforme depuis hier. En cause, ses vidéos et ses propos misogynes et sexistes.
A tout de suite, nous évoquerons aussi le succès des soirées Maman sort danser. Vous verrez de quoi il s'agit. À partir de 13h30, la Révolution française en bande dessinée. Le dernier volume de l'histoire dessinée de la France vient de sortir. La Révolution, comme vous ne l'avez jamais vue et jamais lue. Nous serons avec l'un de ses auteurs, l'historien Guillaume Mazot, 01 45 24 7000, pour être avec nous. 13h45, Bâle en Suisse, avant l'Eurovision. La chanteuse Louane connaît son show sur le bout des doigts.
Je l'ai tellement fait, je l'ai tellement travaillé que c'est plus quelque chose auquel je réfléchis du tout, vocalement parlant. Si mes cordes vocales, elles sont capables de reproduire quelque chose sans que j'ai besoin d'y réfléchir, à force de l'avoir travaillé, mon corps va forcément faire la même chose. Donc je suis que dans ma chanson.
Julien Baldacchino nous attend sur place. 13h50, c'est la France. Nos courses cyclistes ont-elles un avenir? Les budgets sont de plus en plus durs à boucler. Exemple à Dunkerque. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La metteuse en scène Valérie Lessort demande fame à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Des défaillances d'entreprises en hausse, une croissance en berne, des plans de licenciement dans l'industrie, oui, mais un chômage qui reste stable. C'est la bonne surprise apportée ce matin par l'INSEE qui dévoile les chiffres du premier trimestre. Le taux de chômage s'élève à 7,4%, plus 0,1% par rapport au dernier trimestre 2024. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
L'emploi résiste bien.
Oui, même l'INSEE, dans sa note de conjoncture en mars dernier, prévoyait un chômage à 7,5%. Pour la fin de ce premier trimestre. La situation est donc meilleure que prévu. Parmi les explications, les plans sociaux médiatiques depuis l'automne dernier ne sont pas tous effectifs à l'heure qu'il est. Prenons l'exemple d'Auchan qui a révélé en novembre dernier vouloir supprimer 2400 postes. L'hypermarché de Voipy en Moselle doit justement fermer ses portes demain, mais il doit rouvrir sous l'enseigne Leclerc qui s'est engagé à reprendre les salariés. Dans l'industrie, l'annonce de la fermeture des sites Michelin à Cholet et Vannes a fait beaucoup de bruit. 1250 personnes risquent de perdre leur emploi, mais la fermeture ne sera effective qu'en 2026.
Vous l'avez dit, on parle beaucoup de suppression de postes dans l'industrie. Il y a donc aussi des créations?
Oui, après avoir perdu beaucoup d'emplois, la filière depuis 2-3 ans réembauche. Selon le baromètre Trendéo, c'est Stellantis qui cherche 450 salariés pour fabriquer son SUV. C'est Longchamp et ses 63 maroquiniers recrutés à Segré et Château-Gontier. Et à une toute autre échelle, l'aéronautique, le spatial, la défense ont eu besoin de 2500 personnes supplémentaires pour le seul mois de janvier 2025. Autre bonne nouvelle, toujours selon l'INSEE, une forte hausse des créations d'entreprises au mois d'avril, plus 4,6%. Alors, l'emploi résiste, oui, mais pour combien de temps encore? Certains gros plans sociaux vont devenir effectifs à partir de juin et les entreprises affichent des perspectives d'embauche à la baisse, redoutant des coups de rabot gouvernementaux à venir sur les aides.
Agnès Soubiran pour ses explications. Alors, mettre en relation les chômeurs et les entreprises, c'est la mission de France Travail, qui teste en ce moment une nouvelle méthode, une session de recrutement organisée pendant une visite culturelle. Ça se passe à Doulan, dans la Somme, au nord d'Amiens, où s'est rendue Louise Buyens.
Sur la droite, vous avez l'église, là, qu'on voit.
Pendant une heure et demie, tout y passe. Le beffroi, le musée, les places.
Tout à l'heure, c'est dans les années 1950.
Dans le groupe, il y a des employeurs et des demandeurs d'emploi, mais personne ne sait qui est qui, jusqu'à la mairie.
Donc, l'hôtel de ville, et puis surtout la salle du commandement unique qui se trouve au premier étage.
Table et chaises sont installées façon job dating.
Je regarde votre CV et puis après je vous laisserai vous présenter.
En face de la recruteuse, Florine cherche une alternance en ressources humaines et la visite de la ville l'a mise dans de bonnes conditions.
On est quand même plus décontracté et vu que j'avais discuté avec des personnes pendant la visite, j'ai été directement les voir en premier sur le stand Et voilà.
Sabrina Abalo a besoin d'embaucher des aides ménagères et des auxiliaires de vie pour la communauté de communes Territoire Nord Picardie. Et elle a commencé sa recherche pendant la balade.
Dès que je suis arrivée, j'ai regardé comment les personnes se comportaient. C'est très intéressant. Ça permet de voir les personnes autrement et puis de voir si elles s'intéressent ou non à ce qui est dit. C'est du savoir-être, c'est des choses qui sont très très importantes. D'interagir avec les personnes, être à l'écoute, être bienveillant, c'est une des premières qualités qu'on recherche.
Tout le monde ressort content de l'opération et l'agence France Travail de Doulan envisage de la reconduire.
Reportage ici Picardie, nous parlions de l'industrie il y a un instant dans le bilan de l'emploi. La priorité de ce secteur en ce moment, c'est de négocier des prix de l'électricité à la baisse. D'autant que ces entreprises se sont engagées à décarboner, donc à consommer moins de pétrole et de charbon, et davantage d'électricité. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Un premier gros contrat vient d'être signé depuis l'arrivée d'un nouveau patron chez EDF, à un tarif avantageux.
Oui, tarif avantageux, ou plutôt mécanisme tarifaire avantageux, vous allez comprendre pourquoi. On ne connaît pas pour le moment le montant sur lequel sont tombés d'accord EDF et l'industriel en question, en l'occurrence Aluminium Dunkerque, 700 salariés, 1% de la consommation électrique française.
Gros consommateur.
Voilà. Mais ce que laissent entendre plusieurs sources, c'est que ce contrat prévoit que le tarif pourra varier en fonction des équations économiques des deux entreprises, en fonction du cours mondial de l'aluminium d'un côté par exemple, et des marges ou pertes réalisées par EDF de l'autre. L'idée donc, c'est de s'adapter au contexte industriel. Si les temps sont difficiles pour l'industrie, EDF fait un effort. Contrat de long terme sur 10 ans, un vrai cocorico pour Aluminium Dunkerque qui annonce en même temps le lancement d'un four de recyclage de l'aluminium et une manière pour Bernard Fontana, le tout nouveau patron d'EDF, de montrer qu'il peut passer des promesses aux actes sur cette question cruciale des tarifs à destination de l'industrie. Une dizaine de contrats de ce type doivent suivre. Alors comment l'énergéticien public s'en sortira-t-il financièrement ? Dans le journal Les Échos, son PDG annonce ce matin vouloir produire plus et plus vite et compter sur l'électrification massive des activités dans les années qui viennent.
Merci Claire Chaudière. Personne n'avait vu venir ce vote hier soir à l'Assemblée nationale. Une majorité pour approuver un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Plus aucune fermeture. Notre pays comptait 814 maternités en 1996, seulement 460 en 2022 et il y a encore des fermetures annoncées pour ces prochains mois. Et ce qui est intéressant, c'est l'argument utilisé par les députés. La lutte contre la mortalité infantile en hausse constante dans notre pays, la fermeture des maternités en serait en partie responsable. Alors qu'en pensent les médecins ? Bonjour Israël Nizan.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de gynécologie, ancien président du Conseil national des gynécologues français. Est-ce une bonne idée selon vous ?
C'est une fort mauvaise idée parce que pour faire tourner une maternité, il faut un obstétricien, il faut un pédiatre et il faut un anesthésiste réanimateur. Et pour des petites maternités, nous n'avons plus les moyens de mettre ces trois compétences indispensables en cas de complications autour des patientes. Donc si on parle de la sécurité des femmes et de la sécurité des enfants, on regroupe les moyens dont nous disposons plutôt que de les éparpiller. Et donc je rappelle que notre mortalité infantile augmente, ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de pédiatre pour accueillir l'enfant lorsqu'il va mal. Et je rappelle que nous avons 80 femmes qui décèdent en couche chaque année. Et aujourd'hui, nos jeunes médecins formés correctement veulent travailler en équipe et non pas tout seuls. Donc si... Parce que quand on a une complication et qu'on est seul, c'est une catastrophe dans notre spécialité.
Donc ce que vous nous dites, c'est que ce vote va aggraver les choses ?
Ce vote, non, c'est de la démagogie pure, parce que lorsque vous avez plus d'obstétriciens et plus de réanimateurs et plus de pédiatres, mettre le frontispice d'une maternité, c'est comme un décor de théâtre, ça ne veut rien dire. Les maternités qui ont fermé, elles ont fermé faute de médecins pour les faire marcher, et donc il ne suffit pas, sur le velours rouge des assemblées, de décider qu'on ne fermera plus de maternité. C'est ridicule, et c'est de la démagogie.
L'une des députées Israël Nizan rappelait hier soir lors du débat ce chiffre, disait-elle, le risque de décès néonatal est multiplié par 2 lorsque le trajet jusqu'à la maternité dépasse 45 minutes. Ça n'est pas un argument recevable pour vous, l'éloignement des maternités ?
Écoutez, on a un modèle qui est celui de la Polynésie, où il y a des îles qui comportent 500 personnes et personne n'accouche sur ces îles. Pour la vingtaine de lieux où il y a plus de 45 minutes de déplacement en hiver, il faut trouver soit des moyens de transport pour les femmes, soit de mettre les femmes dans des hôtels hospitaliers en amont de leur accouchement. Il y a plein d'endroits comme la Suède, comme les pays scandinaves, qui ont des distances bien plus grandes que nous et qui se sont débrouillés. Mais il faut réfléchir à cette vingtaine de situations et non pas faire de la démagogie en espérant ne pas fermer une maternité pour qu'il y ait encore dans les actes de naissance le nom de la ville en question.
Mais ça veut dire par exemple qu'on pourrait avoir dans les prochaines années des départements, si je vous suis, sans maternité. Pour vous, ça ne serait pas forcément un problème ?
Ce n'est pas forcément un problème. Il y a des endroits dans le monde où on est très à distance d'une maternité, bien plus qu'en France. Et donc, il faut réfléchir aux moyens en fonction de la sécurité des femmes et des enfants et non pas en fonction de la démagogie politique.
Mais ça veut dire, vous nous dites des moyens de transport plus performants. Donc là, c'est quoi ? Ce sont des hélicoptères, par exemple, positionnés,
oui.
D'accord ?
Mais je vais vous dire, la maternité de Lamur, il y avait un médecin qui était de garde 365 jours sur 365. Il a demandé à se faire remplacer, personne n'avait envie de le remplacer. Il a fini par partir. Et donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être de garde H24 pour un accouchement tous les deux jours. Et en plus, de lui dire, et il faut que tu appelles un anesthésiste et que tu appelles un pédiatre, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une complication. C'est déraisonnable.
Et d'un autre mesure que vous évoquez, c'est la programmer davantage de naissances, déclencher davantage de naissances ?
Programmer les naissances, moi je pense que c'est une des solutions. De toute façon, il faut réfléchir et faire à la main sur les 20 lieux en France qui sont en souffrance et non pas attendre que les maternités se ferment faute de combattants.
Merci Israël Nizan d'avoir été avec nous, professeur émérite de gynécologie, ancien président du Conseil national des gynécologues français. Les accouchements dans un train, ça arrive, on vous en parle de temps en temps dans ce 13-14. Eh bien, il y a du nouveau pour acheter vos billets de train avec ce concurrent pour SNCF Connect. Il s'agit de BlaBlaCar, le spécialiste du covoiturage, qui se met donc sur ce créneau. Pourtant, la SNCF est actionnaire de BlaBlaCar. Bonjour Raphaël Benabdenmoumen.
Bonjour.
Quelle est la nouveauté de cette offre ?
Eh bien, il est désormais possible de comparer à partir d'une seule recherche sur le site de BlaBlaCar trois modes de transport différents. Le covoiturage, le bus et désormais le train. Pour demain, 84 trajets sont par exemple proposés entre Paris et Lyon. Mais n'espérez pas de prix cassés, ce sont les mêmes que sur SNCF Connect. BlaBlaCar est tenu par des règles qui l'empêchent de faire plus de 2% de marge sur les billets vendus. Alors Jean Coldefy, spécialiste des mobilités, est dubitatif quant au succès commercial de cette opération.
BlaBlaCar espère qu'en jouant avec la marque BlaBlaCar, qui est bien connue du grand public, mais un public qui est sans doute plus habitué au covoiturage qu'au voyage en train, ils arriveront à gagner quelque part de marché là-dessus. Mais franchement, c'est pas évident et c'est un pari.
En fait, à terme, BlaBlaCar mise surtout sur la combinaison billet de train covoiturage pour parcourir les derniers kilomètres jusqu'à la destination finale. L'offre doit encore se développer. Pour l'instant, pas de possibilité d'acheter des billets pour Ouigo, ni pour le concurrent italien de la SNCF, Trenitalia. Impossible aussi d'utiliser les très populaires cartes de réduction, ni d'acheter un billet aller-retour.
Raphaël Benabdelmoumen, un maire qui ne repart pas dans la bataille électorale, c'est celui d'Annecy. L'écologiste François Astorgue ne se représentera pas l'an prochain. Son mandat a notamment été marqué par l'attaque au couteau contre des enfants par un réfugié syrien. C'était dans une aire de jeu de sa commune le 8 juin 2023.
C'était un mandat difficile. Il y avait le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, la crise économique. Il y a eu le 8 juin. Ça a été des moments incroyablement durs de voir ses enfants et aussi d'avoir été menacé de mort. J'ai eu des menaces de mort, j'ai été sous protection policière. Et aujourd'hui, je pense que la République ne protège pas assez ses élus et ne met pas suffisamment en place les conditions nécessaires pour protéger les élus et les maires qui sont au premier contact. Ça fait aussi partie d'un ensemble d'événements difficiles qui font que on se pose la question et de dire, dans le fond, est-ce que j'ai envie de faire campagne ? Et de ce point de vue-là, non. C'est pas de l'usure, qu'il y ait une part de fatigue, oui, mais c'est pas de l'usure.
Le maire d'Annecy au micro de Richard Vivion, ici Pays de Savoie. La maire, les Républicains de la Seyne-sur-Mer, deuxième ville du Var, elle va être démise de ses fonctions. Elle a été condamnée pour prise illégale d'intérêt avec une peine d'inéligibilité immédiate de 5 ans. La justice lui reproche l'obtention d'un permis de construire pour sa maison personnelle avec la signature de son directeur général des services, mais aussi d'avoir embauché l'un de ses proches sans appel à candidature.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est un palais somptueux dans le détroit du Bosphore, au cœur de la mégalopole d'Istanbul, le palais de Dolmabahçe sur la rive européenne, héritier de l'Empire ottoman. Voilà le décor fastueux de la première rencontre entre des diplomates ukrainiens et des diplomates russes depuis 3 ans. Elle est symbolique car en l'absence de Vladimir Poutine, le président russe, les représentants russes n'ont quasiment aucune marge de manœuvre. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Istanbul, vous suivez ces pourparlers. Alors, cette rencontre dont on parle depuis des heures, depuis des jours, a-t-elle enfin débuté ?
Oui, il y a quelques minutes, les deux délégations se sont retrouvées face à face. Elles sont dans une pièce où figurent les 3 drapeaux, russe, ukrainien et turc. Décor neutre, table recouverte d'une nappe blanche. Et entre les deux, le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, lui qui n'a pas ménagé ses efforts depuis hier soir pour avoir cette photo des deux belligérants à Istanbul dans la même pièce. Photo à laquelle la Turquie tient tant, même si la substance, vous le disiez, risque d'être légère, tant les positions semblent toujours irréconciliables. L'Ukraine a redit que son objectif, c'est un cessez-le-feu inconditionnel dont Moscou ne veut pas. La clé pour débloquer tout cela, c'est bien Vladimir Poutine, que Trump a dit encore aujourd'hui vouloir rencontrer dès que cela sera possible. Alors, pour éviter d'être mise sur la touche, la partie ukrainienne entend négocier cet après-midi ici une rencontre Zelensky-Poutine, ce que le chef du Kremlin, rappelons-le, a toujours rejeté. En tout cas, pour préparer ce premier rendez-vous depuis 3 ans, il y a une série, un véritable ballet diplomatique depuis ce matin ici, avec le secrétaire d'État américain, des conseillers européens en matière de défense, les délégations prises séparément. Alors, on va attendre de voir ce qui va en sortir, mais on ne pourra pas dire que la Turquie, les États-Unis et l'Europe n'auront pas redoublé d'efforts pour que ces négociations se tiennent.
Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul pour Inter. Un nombre record de victimes de la faim l'an dernier dans le monde. 295 millions de personnes concernées dans 53 pays, selon le rapport mondial sur les crises alimentaires qui met essentiellement en cause les guerres comme celle de Gaza en ce moment, sans aucun accès à l'aide humanitaire. Et le président américain Donald Trump dit ce matin vouloir régler la situation dans un territoire affamé. Fin de citation. La France, de son côté, propose de reconnaître un État palestinien. On le sait, Emmanuel Macron a ouvert la voie début avril. Et bien, selon nos informations, la France est en train d'accélérer sur ce dossier. Christian Chesneau, un document de cadrage a été diffusé auprès des consulats européens et occidentaux.
Cette conférence internationale, co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite, aura lieu du 17 au 20 juin prochain, au siège de l'ONU à New York. Selon un document de cadrage, l'idée est d'en finir avec des négociations de paix sans fin. Dans la méthode, c'est l'antiprocessus d'Oslo, assure un diplomate européen qui ajoute que ce sommet pour la Palestine veut prendre à rebours les projets expansionnistes israéliens et créer des faits accomplis positifs. Une quinzaine de pays participent à l'élaboration de mesures rapides, substantielles et irréversibles, selon le document, qui seront annoncées lors de la conférence. 8 groupes de travail ont été créés, relatifs entre autres à la question d'un État palestinien souverain, à la sécurité, à la viabilité économique ou encore à la reconstruction. Une semaine avant l'événement, des acteurs des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes seront réunis à Paris. En pointe sur le dossier, la France, qui pourrait reconnaître l'État de Palestine à cette occasion, s'active pour créer une dynamique diplomatique. Mais Israël a déjà mis en garde qu'il pourrait, en rétorsion, prendre des mesures unilatérales comme l'annexion des colonies juives de Cisjordanie.
Précision signée Christian Chesneau. Autre initiative de la France, elle concerne la détention en Iran de 2 Français. Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, emprisonnés depuis 3 ans, et considérés par Paris comme des otages. La France va déposer plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice de La Haye, annonce ce matin du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui intervient alors que des pourparlers se tiennent aujourd'hui en Turquie sur le nucléaire iranien. Noémie Kohler est la sœur de Cécile.
On voit qu'il y a des négociations en cours sur le nucléaire. On ne peut pas s'empêcher de se dire que ça peut mener sur quelque chose de positif pour nos proches. Et en même temps, on n'a aucun moyen de le savoir. On se rend bien compte que la diplomatie a ses limites, hein, surtout dans le cas de Cécile et Jacques. Donc on pense que c'est important de se saisir de tous les outils juridiques à notre disposition et à disposition de la France pour mettre les autorités iraniennes face à leurs responsabilités. Parce qu'on sait que c'est un organe juridique qui est reconnu par la République islamique d'Iran. Il y a eu des précédents, notamment les États-Unis l'ont saisi dans l'affaire de la prise d'otage à l'ambassade en 1979. Est-ce que ça peut faire avancer les choses ? On ne peut pas s'empêcher de l'espérer. En tout cas, pour nous, c'est un signal important de la part de la France.
Noémie Coller au téléphone de Valérie Crova. L'affichage sur les vêtements de leur coût environnemental est validé par la Commission européenne. C'était une proposition française sur le modèle du Nutri-Score, mettre des étiquettes qui peuvent indiquer aux consommateurs l'impact carbone de leurs achats. Réponse à l'ultra fast fashion, selon la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, qui vise un déploiement de ces étiquettes au second semestre, mais seulement sur une base volontaire. TikTok qui accepte de fermer l'un de ses comptes et de bannir l'un de ses utilisateurs, comme l'avait déjà fait le réseau social Instagram. C'est extrêmement rare. Il faut dire que ces deux plateformes ont été saisies par la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger. En cause, les messages publiés par un influenceur français qui se fait appeler Adé Laurent. Il est très suivi. Victor Vasseur, on vous retrouve. Et ce qui a fait son succès, ce sont ses vidéos masculinistes, c'est-à-dire avec des propos misogynes et sexistes.
Adrien Laurent, 30 ans, corps musclé, mâchoire carrée, sourire ultra blanc, petit bouc au menton. Cet ancien candidat de télé-réalité s'est reconverti acteur pornographique et influenceur sur les réseaux sociaux.
Je pars une journée en booking, je reviens, elle est en train de se... Elle pense qu'à ça, la meuf.
Dans ses vidéos en direct, le vocabulaire est très cru devant une audience très jeune. Des adolescents suivent ses contenus, explique Anaïs Loubert, spécialiste des réseaux sociaux.
Il y a un fond dans ses vidéos qui capte les jeunes et les moins jeunes, et il y a un taux d'adhésion qui est là. Là où on pourrait considérer qu'il y a un volet sexiste et inquiétant dans la mise en scène des rapports et hommes-femmes, ça va vraiment être tous les lives qu'il fait qui sont extrêmement dégradants pour les femmes, surtout le fait de mettre en avant des rapports non consentis, c'est clairement problématique.
Mais Adé Laurent n'enfreint pas les règles de la plateforme, il n'y a pas de nudité, tout est suggéré. Sur Snapchat, l'influenceur réplique et évoque une bonne grosse brochette de diffamation et de mensonges à son égard.
Et il est loin d'être le seul sur ce créneau.
D'autres signalements suivront, assure la ministre Aurore Berger. Sur TikTok, mais aussi Instagram, ils sont nombreux et leurs vidéos cumulent des millions de vues. Cette galaxie masculiniste sur les réseaux sociaux était au cœur d'une table ronde à l'Assemblée nationale ce matin, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire visant TikTok.
Merci Victor Vasseur. Eh bien, c'est une réaction au comportement, Victor, que vous venez de décrire, comportement ou propos machistes. De plus en plus de femmes sont séduites par l'idée de passer une soirée sans homme. Le concept s'appelle « Maman sort danser ». Il est né en Allemagne et il fait un carton en France depuis quelques semaines. Demain soir, par exemple, à Lisieux, en Normandie, ça va se passer dans la boîte de nuit, le Millennium, Juliette Gloria.
Jamais les boîtes de nuit n'auront ouvert aussi tôt. Entrée dès 20h et pas besoin d'attendre 1h du matin pour chanter du Céline Dion, promet Sarah Lafosse, chargée d'organiser ces soirées spéciales maman en Normandie.
L'idée du concept de Maman sort danser, c'est justement de retrouver ce moment de fête et de sortie, mais de 20h à 23h, qui sont des horaires qui semblent plus faciles à concilier avec la vie de maman.
Mais la soirée n'est pas réservée qu'aux mères de famille, elle s'adresse à toutes les femmes. Ce qui répond à une grande demande, a constaté Christelle Longuet, responsable du club Millennium de Lisieux.
Il y a ce manque de se retrouver entre nous. Là, elles vont être entre elles, elles vont pouvoir s'habiller comme elles veulent, danser comme elles veulent. C'est important. Ce qu'on ne peut pas faire en club, je le vois tous les week-ends. Mais là, ça va être différent. Ça va être le feu.
En 13 ans, c'est la première fois qu'elle organise une soirée 100% féminine, mais qui ne doit pas être considérée comme une soirée anti-homme, insiste Sandra Lafosse.
Les hommes sont de plus en plus impliqués dans leur paternité, mais il y a des chiffres qui sont encore parlants. On est sur un couple hétérosexuel, 76% des femmes se lèvent plus la nuit que le papa. Ce sont des choses comme ça. Et en fait, on a voulu offrir une parenthèse sympa.
La soirée coûte
13,61€ avec une playlist spéciale et des cocktails avec ou sans alcool pour l'occasion.
Reportage ici Normandie. Là, c'est le milieu des rave parties qui est à l'honneur et qui sert de cadre au film en compétition à Cannes, le film franco-espagnol Sirat, présenté hier soir. L'intrigue se déroule dans le désert marocain. Un homme y recherche sa fille, disparue depuis plusieurs mois. Quatrième long métrage d'Olivier Laché et il a beaucoup plu à notre spécialiste cinéma Alexis de Meyer.
Louis et son jeune fils Esteban quittent précipitamment l'Espagne pour aller distribuer des avis de recherche à des tuffeurs dans les montagnes de l'Atlas. Dans le rôle de Louis, un Sergi Lopez, tout en sobriété.
Oui, il n'est pas très bavard, c'est pas un homme de parole, c'est un homme de sentiments. Je trouve que c'est un homme très touchant, très fragile. Donc il va être éteint de plein fouet par l'idée de la mort, par la tragédie. Et voilà, ça va forcément le bouleverser.
Bouleversant, en effet, ce road movie aux accents apocalyptiques qui multiplie les tours de force esthétiques. Le réalisateur Olivier Laché confirme ici sa grande science de l'image.
Il y a des différentes sortes de cinéastes. Je pense que je suis un cinéaste de l'image. Au début, c'est l'image, toujours. Donc, il y a des images qui apparaissent et après, bon, j'essaie de les relier narrativement. Il y avait une volonté radicale d'inviter le spectateur à un voyage sensoriel, un voyage dur.
Le film progresse en crescendo et mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Mais ce voyage vers la mort est d'une puissance à couper le souffle.
Suite de la compétition cet après-midi avec Eddington de l'américain Ari Aster et la petite dernière de la française Afsia Herzi qui sera champion de France de football ce soir. Les Lyonnaises ou les Parisiennes, la finale se joue à Lyon entre deux équipes qui vont tenter de sauver leur saison et avec pour les Lyonnaises un enjeu supplémentaire, réussir la sortie d'une très grande joueuse, Eugénie Le Sommer qui a 35 ans et après 314 buts va dire adieu aux couleurs lyonnaises. Elle part et avec un brin d'amertume. Est-ce qu'on peut écouter Eugénie Le Sommer ? A priori, on va attendre un petit peu. On vous la fera écouter un tout petit peu plus tard, 13h27 sur Inter. La suite, la prochaine demi-heure, et la météo de Sébastien Léas. Puis on parlera à partir de 13h30 de la Révolution française, à l'honneur dans le dernier volume de l'histoire dessinée de la France. C'est une relecture de la Révolution française avec plusieurs points de vue qui nous interrogent. L'historien Guillaume Mazot est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions en direct. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jean-Baptiste, vous nous emmenez à Dunkerque.
Oui, les 4 jours de Dunkerque fêtent leurs 70 ans d'existence, mais l'épreuve cycliste doit se battre pour ne pas disparaître du calendrier, continuer à attirer des coureurs de renom. Pas facile alors que le Nord reste pourtant une vraie terre de vélo.
Et avec vous Frédéric, une metteuse en scène.
Valérie Le Sort, qui est également comédienne, dramaturge, plasticienne. On peut voir actuellement son spectacle Que d'espoir au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et avec elle, Jérôme, nous allons danser avec la chanson Femme d'Irène Cara.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure. Et puis dans un quart d'heure, nous appellerons Julien Baldacchino qui nous attend à Bâle pour parler des répétitions et notamment de la prestation de Louane.
Ce dimanche, Pierre Gagnaire nous offre sa leçon de cuisine.
France Inter, 11h. François-Régis Gaudry.
Il faut que votre travail donne du sens à votre vie. Quand on a la chance de pouvoir trouver quelque chose qui vous transcende, qui vous donne le sentiment de bonheur parce que vous apportez quelque chose aux autres, bah il faut y aller, quoi.
Le chef 3 étoiles nous raconte 50 ans de cuisine, une carrière faite de haut, de bas, de découvertes éblouissantes et de coups de génie.
On va déguster.
Avec Pierre Gagnère, c'est ce dimanche à partir de 11h.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Après-midi ensoleillé à l'exception du sud-est.
Oui, plein soleil ou presque pour cet après-midi avec un ciel bien dégagé et quasiment tout bleu des côtes de la Manche à l'embouchure de la Gironde jusqu'aux plages du Languedoc et du Roussillon à Auvergne-Rhône-Alpes, au Jura et au Grand Est. Alors quelques nuages peuvent tarder à se dissiper sur les plages de la Bretagne ou déborder de la mer du Nord vers les Flandres et le Boulonnais. Le ciel est un peu plus variable dans le sud-ouest, le soleil reste généreux sur les plages, mais des averses se développent sur les Pyrénées. Et puis l'instabilité est plus marquée sur la Provence et les hauteurs de la Corse du Sud. Les averses peuvent être orageuses cet après-midi et assez intenses, notamment dans le Var. Alors le risque d'averses et d'orages concerne surtout l'intérieur, mais des débordements peuvent atteindre les plages de la Côte d'Azur. Malgré quelques degrés de plus, les températures maximales seront un peu justes pour la saison cet après-midi sur le Nord-Ouest. À l'inverse, il fera moins chaud qu'hier sur le Languedoc et l'Ouest de la Provence. On attend 17 à 23 degrés sur la moitié Nord et le Pays Basque et 20 à 26 degrés sur le Sud.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Guillaume Mazot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous signez avec les dessinateurs Mathieu Dunil et Jean-Paul Krasinski le dernier volume de l'histoire dessinée de la France. Donc c'est toute l'histoire de France en BD. Il y a évidemment plusieurs épisodes parce que sinon le volume serait beaucoup trop volumineux. C'est un projet colossal et donc vous avez réalisé celui qui est consacré à la Révolution, notre Révolution de l'Ancien Régime à la Première République, c'est le titre et c'est publié aux éditions La Découverte. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions sur cette période de l'histoire, si elle vous passionne, si vous y voyez aussi des parallèles avec notre époque. On va en parler ensemble, vous passez également via l'application Radio France. Guillaume Mazot, je suis content de vous accueillir dans ce studio. En fait, je vais tout dire, je vous ai découvert il y a quelques semaines lors des visites que vous réalisez dans Paris, visites gratuites sur le thème de la Révolution française. Vous emmenez les curieux, les passionnés d'histoire dans les rues de Paris et vous faites des parallèles avec peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Vous expliquez les traces. Il y a beaucoup de traces de la Révolution française encore visibles dans nos villes et à Paris en particulier.
Et bien sûr, contrairement à ce qu'on s'imagine, la Révolution française, c'est pas seulement la destruction, c'est pas seulement la ruine de l'héritage de l'Ancien Régime, c'est aussi beaucoup de traces, beaucoup d'héritages qui nous constituent aujourd'hui encore. Et quand j'emmène des groupes de 30 personnes tous les mois avec la ville de Paris dans ce qu'on appelle le Parcours Révolution, c'est une appli gratuite qu'on peut télécharger, un site. Et en fait, je m'aperçois à quel point elle fait encore discuter, elle fait encore un peu rêver, puis elle clive aussi, mais c'est intéressant. C'est l'heure de revoir cet événement, je dirais, avec distance, parce que il nous constitue, il fait un petit peu quand même encore un peu ce qu'on est.
Vous trouvez aussi ces traces ailleurs, en France, dans des musées notamment. Alors, vous les recommandez à la fin de l'ouvrage.
Bien sûr, il y a plein de musées. Alors le musée de la Révolution française à Vigy, près de Grenoble, parce que c'est un des berceaux de la Révolution française dans le Dauphiné. La Conciergerie à Paris, qui sont les prisons du tribunal révolutionnaire. Et puis, comment ne pas penser au musée Carnaval et Histoire de Paris, la plus grande collection au monde sur la Révolution française, d'objets, de tableaux.
Le musée de Cholet aussi est recommandé.
Alors, très bien, le musée de Cholet, je l'ai recommandé à la fin de la BD, parce que justement, un des buts de cette BD, c'est de dire on n'est pas là pour perpétuer l'héritage, je dirais, positif, républicain de la Révolution française. Le musée de Cholet, évidemment, il interroge un autre événement beaucoup plus compliqué, la guerre civile, les massacres de l'Ouest, et ils ont leur place dans notre histoire, c'est pour ça que j'en parle dans la BD.
C'est la richesse de cette BD. Avant vraiment de se plonger dans l'ouvrage, vous êtes un prof qui aime bien sortir de sa salle de cours.
Beaucoup.
J'ai l'impression.
Oui, ouais, beaucoup, parce que, vous savez, quand on est chercheuse ou chercheur aujourd'hui, on a du mal aussi à partager ce qu'on fait. On fait un travail un peu de l'ombre. Parfois, on met 10 ans à faire un livre. Et c'est très agréable d'aller confronter un petit peu, de partager nos recherches avec le grand public. Et plus on le fait, mieux c'est, je crois.
Alors, ça donne cette BD, Notre Révolution de l'Ancien Régime à la Première République, dont le récit débute à Haïti. Alors, quel rapport entre la Révolution française et Haïti?
Eh bien, on s'en a aperçu il y a quelques jours, semaines, avec la question des restitutions à Haïti. C'est-à-dire que Haïti, donc, ça s'appelait Saint-Domingue à l'époque. C'était la plus grande colonie française et probablement du monde, 500 000 esclaves. Le commerce du sucre, on est dans le grand capitalisme marchand du XVIIIe siècle. Et on l'oublie souvent, la Révolution française, ça se passe dans un pays, certes un royaume, mais on le voit souvent à travers des petites lunettes un peu franco-françaises, mais c'était aussi dans un empire colonial. Et Haïti, donc la Révolution s'est déroulée, c'est un des théâtres d'opération, je dirais, de la Révolution française, avec le soulèvement des esclaves, etc. Et puis, c'est dans notre héritage, parce que au moment où ces esclaves se sont rebellés et ensuite ont pris le pouvoir, ont chassé les Français. Il les qualifie même de barbares dès la première page de la.
C'est l'un des premiers documents qui est retrouvé dans la BD, qui est assez frappant de voir les révolutionnaires français qualifiés de barbares.
C'est ça, il y a une jeune secouriste qui est là dans les décombres du tremblement de terre d'Haïti en 2010 et qui dit, qu'est-ce que c'est que ce document qui qualifie les révolutionnaires français de barbares, alors que moi j'ai appris à l'école, puisqu'elle est française, d'origine haïtienne, moi j'ai pas appris ça. Et bien en fait, c'est justement, voilà, une fois qu'ils deviennent indépendants et que ça devient la République d'Haïti en 1804, en gros, 20 ans après, en 1825, Charles X, le roi de France, dit « Ok, on accepte de reconnaître l'indépendance d'Haïti à condition de verser 90 millions de francs de l'époque. C'est l'équivalent, je crois, de 30 milliards d'euros aujourd'hui. » Et donc, en fait, bah, voilà, c'est une manière de questionner cet héritage-là, parce que souvent, on ne veut pas trop le voir, mais ça doit nous faire réfléchir aussi sur nos rapports avec nos anciennes colonies.
Et Haïti demande réparation aujourd'hui. Vous diriez qu'Haïti, ce n'est pas une page glorieuse de l'histoire de la Révolution française ?
Alors, moi, j'évite de me situer dans un plan moral, en tant qu'historien, mais évidemment, on ne peut pas qualifier...
La Révolution, elle abolit aussi l'esclavage
voilà, on peut
en 1793.
Pas, voilà, c'est ça. La Révolution, c'est... Justement, j'essaye de le montrer, alors, en racontant les choses. On est dans une BD, hein. On dédramatise aussi plein de choses, mais c'est en fait plein de contradictions. C'est à la fois la première abolition de l'esclavage dans un empire colonial, c'est le 4 février 1794, on oublie souvent cette date-là. Mais c'est aussi des massacres coloniaux, c'est aussi le rétablissement de l'esclavage, mais ça c'est un peu après la Révolution, puis c'est aussi beaucoup d'oubliés de l'histoire dont j'essaye de raconter justement leur participation à la Révolution pleine, les femmes, les esclaves, les catégories populaires, les enfants, mais aussi les nonnes qui sortent du couvent et qu'on fait sortir parfois contre leur gré du couvent au nom de la Révolution. Bref, tous les oubliés. Et puis c'est aussi les contre-révolutionnaires qui subissent des violences à grande échelle. Hein, et ça, il faut évidemment pas du tout l'ignorer et l'affronter clairement.
Tous les points de vue rassemblés dans cette BD, moi c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Avec ces deux guides, comment faire deux guides plus contradictoires, plus opposés que le journaliste Marat, qui est l'un des révolutionnaires les plus radicaux, et sa meurtrière, Charlotte Corday. Les deux cheminent tout au long de l'ouvrage, chacun défendant au fond ses thèses. C'est un dialogue entre les deux.
Oui, c'est ça. En fait, j'avais envie de rompre les récits un peu moraliste ou un peu univoque sur la Révolution française, ou alors ils sont ou positifs, il faut l'aimer, il faut l'hériter, il faut en hériter positivement, on est même attaché à la Révolution, ou alors la Révolution est absolument à présenter comme une période absolument noire, etc. Et donc à travers ce couple un peu à la fois infernal, ils n'arrêtent pas de s'engueuler, ils ne sont jamais d'accord, et cette jeune femme qui est propulsée, cette jeune secouriste qui est propulsée malgré elle à leur côté, eh bien en fait ça me permet de justement tourner autour de l'événement, ne pas diffuser un message en tant que moi historien, et de laisser les lectrices et les lecteurs d'abord un peu rigoler, et puis aussi de se faire leur opinion sur cette révolution qui, dans le sens, s'échappe, hein, cet héritage il est contrasté.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'historien ne peut plus arriver avec ce qu'il pense être une vérité scientifique. On est obligé de montrer un peu le travail, de montrer les sources, de montrer les différentes voies, les différents débats.
Je crois que c'est la grande richesse de cette collection, l'histoire dessinée de la France, c'est de montrer que l'histoire scientifique, quand elle se partage comme ça, elle montre que c'est une manière quand même plus fiable de faire de l'histoire par la science que d'autres, mais il n'y a pas de vérité immuable. Ça s'appelle de l'idéologie ou un dogme. Ces vérités, elles sont prouvées avec des méthodes. Moi, derrière une BD comme ça, il y a, je sais pas, toute une carrière de travail sur la Révolution française. Mais ces vérités-là, elles sont révisables, discutables, amendable. Et c'est ça la science. La science, c'est quelque chose qui peut bouger, évoluer et se discuter. En fait, tant que c'est sur la place publique et fait avec des méthodes, et ben en fait, tout va bien.
Et ça montre aussi l'évolution du travail d'historien. Est-ce qu'il y a 10 ou 20 ans, vous auriez parlé à ce point des massacres de la Révolution française, des massacres de Vendée, des annexions de territoires européens? Il y a, je crois, un Belge qui dit, mais attendez, nous on a été annexés, on n'a pas été libérés, on a été annexés par les révolutionnaires français.
Alors, il y en a qui le faisaient, mais souvent pas à l'université, parce qu'on était chargés à l'université... comme institution républicaine, un peu comme à l'école, de perpétuer l'héritage positif de la Révolution. Et donc, il n'y avait pas de volonté de cacher, de faire une histoire officielle, mais malgré tout, c'est ce qu'on appelle le roman national, on avait plein d'angles morts, je dirais. Hein. Il y a des choses qu'on mettait sous le tapis. Et Voilà, on est plus de 200 ans après. Et maintenant, on a vu aussi les ravages que ça fait. Quand on ignore des victimes, quand on ignore des violences, ça donne des mémoires de résistance qui peuvent alimenter des idéologies aujourd'hui d'extrême droite. Je pense par exemple au Puy du Fou, aux mensonges, aux falsifications de l'histoire, dont la Révolution a un enjeu aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier.
Ce que vous dites, c'est qu'on a ignoré les massacres de Vendée, on ne les a pas considérés comme tels, et donc ça a donné lieu quoi, à du révisionnisme et à des discours extrémistes.
À des mensonges, comme par exemple selon lequel il y aurait eu un génocide en Vendée à cette époque-là. Alors, quand on est historien... Pourquoi c'est pas un génocide ? C'est parce que ça répond à aucune des qualifications juridiques de Nuremberg, 1948, ni de l'ONU, mais plutôt à des massacres de masse, des violences, c'est sûr, mais voilà, donc dans le décret, par exemple, du 1er août 1793, c'est un des fameux décrets d'extermination des rebelles de la Vendée, il y a l'article 8 qui dit qu'il faut épargner les femmes, les enfants, les vieillards et les traiter avec humanité. Et puis l'article 14 qui dit qu'il faut indemniser ceux qui auraient été injustement lésés. Donc on ne veut pas exterminer toute une population pour des raisons religieuses. C'est quasiment que des catholiques qui s'entretuent. C'est une guerre civile. Voilà.
Et, les révolutionnaires sont aussi catholiques.
La plupart d'entre eux, alors évidemment, il y a des protestants, il y a des juifs aussi, hein, à peu près 5000 dans le royaume de France au début de la Révolution, puis il y a quelques personnes qui ne croient pas trop en Dieu, mais ça c'est très très rare. Oui. C'est aussi pour ça que je fais parler Charlotte Corday et puis un prêtre. Il ne faut pas oublier que cette période, la Révolution lutte contre ce qu'on appelait le fanatisme religieux. Et ce fanatisme, à cette époque-là, il ne venait pas de l'islam. Il venait du catholicisme et de l'Église et de son clergé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, vraiment, il y a des gens qui ont essayé de défendre à la fois l'idée qu'il fallait lutter contre le fanatisme, d'autres qui ont résisté contre ça. Ça fait partie de notre histoire.
On parlait de Charlotte Corday, question de Patrice de la Meuse. Pensez-vous que le rôle des femmes durant la Révolution est assez mis en avant, comme par exemple celui d'Olympe de Gouges, nous dit-il ?
Pas encore assez. Alors on fait tout ce qu'on peut, nous, les historiennes, c'est beaucoup de femmes qui ont commencé à écrire l'histoire des femmes. Et les féministes en premier lieu, je pense aux grands travaux d'Arlette Farge, notamment Michel Perrault. Alors ça vient quand même, on commence, mais par exemple, il n'y a aucun livre qui a écrit en français sur la marche des femmes d'octobre 89, c'est fou. Alors que c'est peut-être le plus grand événement de 1789 avec la prise de la Bastille, mais quand même ça commence. Alors dans la BD, elles ont une bonne place, ça je peux vous dire. C'est deux femmes et un homme qui racontent la Révolution, et souvent elles trouvent que l'homme parle trop. Voilà, donc vous voyez, être historien, c'est aussi interroger le passé avec les catégories de son temps. Et moi, je suis sensible à cette question des femmes, du féminisme. Et donc oui, il y a ce petit biais-là, j'en suis assez fier. Olympe de Gouges, cela dit, elle était moins connue qu'aujourd'hui, en tout cas pour ses combats féministes. Elle était plutôt connue comme dramaturge. C'est une des autrices d'une pièce abolitionniste qui s'appelle « L'esclavage des Noirs » ou « Le renaufrage ». Donc, elle était vraiment connue comme une femme de lettres à cette époque-là.
Éclairer le passé pour comprendre le présent, on découvre dans cette BD que déjà sous la Révolution, les fake news, les fausses informations se propagent à vitesse grand V, et on voit, moi j'ai vu un parallèle avec notre époque actuelle, même si évidemment on n'a pas les smartphones à la main en 1789, mais enfin les fausses nouvelles elles circulent.
Alors le combat pour la fiabilité de l'information et la source, il est majeur, alors pas seulement pendant la Révolution française, mais pendant les Lumières, je dirais. Au moment où, un peu comme aujourd'hui, mais avec le numérique, ou les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc., on se retrouve face à une invasion d'écrits. Alors, à l'époque, ça s'appelle des placards, c'est-à-dire des affiches, des pamphlets, c'est-à-dire des petits textes qui circulent comme ça, sous la main, des petites images, etc., et qui déstabilisent énormément les systèmes de l'information, parce qu'auparavant, sous la monarchie absolue, c'était absolument contrôlé par le roi. Alors, il y avait plein d'écrits clandestins, mais à partir du moment où les événements quasiment journaliers, enfin quotidiens sous la Révolution se multiplient, et qu'il y a plein de sources d'informations qu'on ne peut pas contrôler, et oui, ça donne à la rumeur, aux légendes, aux falsifications un rôle majeur, et il faut les lire, ces gens-là, du XVIIIe siècle, parce que c'est pas qu'ils ont trouvé des solutions, malheureusement, pour eux, mais en tout cas, ils ont saisi ces problèmes-là à bras-le-corps, et je crois que ça peut nous aider à, non pas, on n'apprend rien du passé, enfin, il n'y a pas de leçon à apprendre du passé, mais peut-être à essayer de mieux affronter ces problèmes-là aujourd'hui.
On a beaucoup parlé ces derniers mois avec les débats en France autour du déficit, de la dette qui ne cesse de se creuser. Beaucoup de commentateurs ont rappelé que la Révolution française est née de la dette abyssale du Royaume de France et de la convocation des États généraux pour trouver des solutions à la crise auxquelles étaient confrontées les finances du Royaume. Et on fait un parallèle avec la situation actuelle. Guillaume Mazeaux, ça vous amuse, ça vous fait rire, vous prenez tout cela au sérieux, ça alimente votre réflexion et votre travail d'historien ?
Bien sûr. Les questions du présent, elles n'arrêtent pas de nous relancer. nous qui travaillons sur à peu près les mêmes archives que nos prédécesseurs, mais on les lit autrement. Et évidemment, quand on est aujourd'hui confronté à la dette publique de notre État, nous, la France de 2025, on ne peut que essayer de comprendre ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle. Alors, il y a des points communs, la France payait ses taux d'intérêt aussi beaucoup plus fort que l'Angleterre à l'époque, et c'était un problème. Il y a plein de grosses différences, c'est que à cette époque-là, il y avait une vraie chaîne de la dette qui rentrait dans la structure sociale. Tout le monde était endetté, jusqu'au plus petit paysan. Et donc, la dette publique entraînait, comme c'était une société clientéliste, où tout le monde dépendait de quelqu'un, potentiellement des écroulements en chaîne qui étaient beaucoup plus problématiques qu'aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on sait bien aussi que la dette, ça peut être une forme de pouvoir.
Donc, vous êtes plutôt rassurant. En tout cas, la situation n'est pas tout à fait la même.
Parfois, faire de l'histoire arrive à... Ça permet, disons, de relativiser un petit peu l'excitation quotidienne ou en tout cas les angoisses quotidiennes qu'on peut ressentir quand on a le nez dans le guidon, je dirais.
Est-ce qu'il y a des mémoires qui restent à éclairer, selon vous, sur la Révolution française ? On a parlé, là, de la mémoire des esclaves, des contre-révolutionnaires ou des royalistes qui ont peut-être été insuffisamment associés à cette histoire. Est-ce qu'il y a encore des angles morts ?
Mais bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein parce que, au fond, cette révolution, faire une révolution, et surtout à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est peut-être le cas de toutes les grandes révolutions finalement, c'est quelque part un peu refaire le monde. Et donc, évidemment, c'est-à-dire que tout le monde est concerné et toutes les strates de la société sont concernées par une révolution. Et donc, à cette époque-là, il y a tellement de gens dont on n'a pas encore écrit l'histoire. Par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle Com Simien qui travaille sur les enfants. Il y a encore plein de collègues qui travaillent sur les femmes, sur la construction du genre, sur les colonies. On n'a pas du tout fait encore tout le travail sur les colonies, notamment parce qu'il y avait des colonies dans l'océan Indien. Bon, bref, on a encore beaucoup de travail et c'est une sorte de ressource inépuisable de connaissances. Et puis aussi, je crois, de découvertes. Regardez, on va en Égypte, on va dans le Dauphiné, Bretagne, en Picardie. C'est ça, la Révolution française.
Ce voyage est à lire dans Notre Révolution de l'Ancien Régime à la Première République, Guillaume Mazeaux, Mathieu Dunil et Jean-Paul Krasinski. Histoire dessinée de la France, c'est le dernier volume en date. Merci infiniment, Guillaume Mazeaux.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en parler. 13h46 sur Inter. Nous avons commencé cette semaine avec la chanteuse Louane dans C'est une chanson. Elle était lundi l'invitée de Frédéric Pommier, elle qui défendra demain soir les couleurs de la France au concours de l'Eurovision. Eh bien, retrouvons-la aujourd'hui. Prenons de ses nouvelles à Bâle, en Suisse, où se déroule demain la grande finale, mais où les répétitions ont déjà débuté. Et notre reporter Julien Baldacchino nous attend sur place. Bonjour Julien.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous et à toutes.
Julien, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour la prestation de Louane demain soir ?
Eh bien écoutez, on a déjà eu un bel aperçu hier soir parce que même si la France est chaque année qualifiée d'office pour la finale, Louane a interprété pour la première fois sa chanson devant les téléspectateurs et téléspectatrices pour la deuxième demi-finale. La mise en scène, elle est sobre et technique à la fois. Louane commence un petit sablier à la main et se retrouve petit à petit au cœur d'un sablier géant. C'est un vrai défi technique parce que chanter sous une pluie de sable, en réalité de liège, eh bien, ce n'est pas facile. C'est ce que nous a confié la chanteuse.
Dans ma prestation, il y a du sable, qui n'est pas du sable, qui est en fait du liège qui est traité. Et en fait, il se trouve que j'ai une tempête de sable, du coup de liège sur scène. Et forcément, comme c'est une tempête, on ne peut pas contrôler le mouvement du liège de façon parfaite. Donc j'en ai toujours un peu dans les cheveux, j'en ai parfois dans les yeux, j'en ai un peu dans la bouche. J'ai développé une sorte de technique où si ça rentre dans ma bouche, j'arrive à le caler sous la langue assez vite et je continue à chanter comme si j'en avais pas. Et ça se passe très très bien.
Et ce sont quand même 250 kilos de liège qui sont utilisés et recyclés à chaque prestation.
Oui, on comprend que c'est assez difficile de chanter dans ces conditions. Ça rend sa prestation encore plus impressionnante. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est ?
Elle apparaît sereine, concentrée pour les spectacles, même si hier elle a pris le temps de venir saluer les fans avant de partir en répétition. Cette concentration, c'est indispensable selon elle pour maîtriser justement à la fois la chanson et tous les aspects techniques d'une prestation faite avant tout pour la diffusion à la télé.
Je l'ai tellement fait, je l'ai tellement travaillé que c'est plus quelque chose auquel je réfléchis du tout, vocalement parlant. Plus on fait quelque chose, plus il devient naturel. Si mes cordes vocales, elles sont capables de reproduire quelque chose sans que j'ai besoin d'y réfléchir, à force de l'avoir travaillé, mon corps va forcément faire la même chose. J'y réfléchis plus du tout, donc je suis que dans ma chanson.
Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ce côté millimétré, elle se réserve une part de liberté.
En fait, je suis hyper libre. Mon corps l'est pas parce qu'on a décidé de placer des choses, mais ça ne m'empêche pas, moi, de l'être. Oui, à tel moment, je lève le bras. Oui, à tel moment, j'ouvre le miroir. Mais il y a un moment, si j'ai envie de faire autre chose, je le fais parce que c'est ce que je vais sentir sur le moment.
Et ça, on l'a entendu hier soir avec des notes inédites par rapport à la version enregistrée par Louane il y a quelques semaines.
Bon, on sait, Julien, que la France n'a plus gagné depuis 1977. Est-ce que cette fois, la France a une bonne, une vraie, une réelle chance de l'emporter ?
Eh bien, jusqu'à hier soir, je vous aurais dit oui sans presque aucun doute, parce que les deux autres grands favoris que sont la Suède et l'Autriche sont vraiment des propositions qui n'ont rien à voir, très humoristiques pour l'une, très épiques pour l'autre, donc loin de la balade de Louane.
Mais
les demi-finales ont révélé des prestations qu'on n'avait pas vu venir, comme celle de la Grèce ou de la Suisse. Là aussi, par contre, ce sont des balades, et ça pourrait venir grignoter sur le terrain de la France, qui est tout de même repassée entre hier et aujourd'hui en troisième place chez les parieurs en ligne.
Merci Julien Baldacchino à Bâle pour Inter. Vous nous ferez vivre demain cette grande finale et puis on reparlera ce soir de l'Eurovision au téléphone sonne.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50. La France du sport avec le journal L'Équipe et Jean-Baptiste René. Jean-Baptiste, direction Dunkerque donc, où une vieille dame de 70 ans fait de la résistance.
Elle est née en 1955. Comme le carnaval, elle fait partie du patrimoine local. Elle a attiré des célébrités, mais elle est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau souffle, bien décidée à ne pas prendre sa retraite. Cette vénérable figure, c'est une course cycliste, les 4 jours de Dunkerque, qui anime donc la cité de Jean Bart depuis des décennies, qui a vu défiler les plus grands comme Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Johan Museu, mais qui aujourd'hui se bat pour exister dans le calendrier international. Au cœur d'un mois de mai, où l'attention se focalise sur le Tour d'Italie et le maillot rose du leader, les 4 jours de Dunkerque ont choisi la même couleur pour récompenser le vainqueur. Mais le constat est là, il est de plus en plus difficile de faire venir coureurs et équipes de renom. Alors en 2025, les organisateurs ont décidé de changer la formule. La traditionnelle course à étapes est désormais précédée d'une classique, une course d'un jour, le mardi, qui rapporte plus de points au classement mondial. Autre décision, le parcours de la course à étapes a été durci. Il passe par quelques grandes villes des Hauts-de-France comme Lens, Valenciennes, Amiens, Arras. Mais il souffrait d'une certaine monotonie et favorisait les sprinteurs. Demain notamment, ceux-ci devraient tirer la langue lors de l'étape qui passera par Cassel et la redoutable ascension de la Porte d'Aire que les coureurs emprunteront à 6 reprises.
Est-ce que cette nouvelle formule porte ses fruits ?
Plutôt oui. Puisque pour la classique de mardi, c'est l'Éthiopien Biniam Girmay, meilleur sprinteur du dernier Tour de France, qui tenait la vedette sur la ligne de départ. Et parmi les 23 équipes qui disputeront le prochain tour, 15 sont représentées à Dunkerque. Alors Christian Prudhomme, le patron du tour justement, exagère un poil quand il parle de ces 4 jours comme d'un mini Tour de France. Mais voyons-y une manière de saluer les efforts déployés par ces courses de second rang qui contribuent à la vitalité d'un territoire. En marge des épreuves les plus connues, ces courses jalonnent le calendrier avec souvent un fort ancrage local. Citons les boucles de la Mayenne, l'Ardèche classique ou le Trobro-Léon qui avait lieu justement la semaine dernière. Cette course bretonne qui a pour particularité d'emprunter des chemins de terre, les fameux ribinous, et où le meilleur breton y remporte un cochon. Mais pour ces événements, les enjeux et les obstacles sont souvent les mêmes. Il faut compenser avec la baisse des subventions publiques et donc aller chercher des partenaires privés tout en continuant à mobiliser les bénévoles. Ils sont ainsi 130 à opérer sur les 4 jours et à cultiver l'esprit vélo sur une terre historique de la discipline.
Ce qui dans le Nord n'est pas une expression galvaudée.
Non, où arrive la reine des classiques ? À Roubaix. D'où va partir le prochain Tour de France ? De Lille. Et les 3 premières étapes se disputeront dans le Nord et le Pas-de-Calais. La région occupe une place centrale sur la carte cycliste qui compense l'absence de gros reliefs par des bosses vislardes, la renommée de ses pavés et la ferveur de son public. Alors, longue vie aux quatre jours de Dunkerque et vive la fantaisie, puisque de mardi à dimanche, si vous avez bien compté, cela fait 6 et non 4 jours de course.
4 jours qui en sont 6, merci Jean-Baptiste René du journal L'Équipe de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est l'artiste aux multicasquettes Valérie Lessort qu'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Elle est plasticienne, dramaturge, scénographe, comédienne, metteuse en scène, récompensée par 6 Molières. Son nouveau spectacle Que d'espoir se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris et c'est un tube d'Irène Cara qu'elle a souhaité que l'on écoute. Sa chanson Femme, extraite de la bande originale du film d'Alan Parker, film décliné par la suite en série télé. Et c'est dans cette série que Valérie Lessort a découvert cette chanson.
J'ai 8 ans, j'habite dans le sud, dans un petit village qui s'appelle Gréasque, entre Aix et Marseille. Et en fait, j'ai découvert Fame, qui m'a tout de suite fait rêver. Depuis mes 8 ans, je rêve de Broadway. Et cette espèce d'école, en plus, moi, j'aimais pas trop l'école, cette liberté d'apprendre la musique, la danse, le chant... Et puis, danse dans la rue. Et ça, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Cette espèce de truc. J'ai toujours rêvé que dans le métro, tout à coup, y a cette espèce de joie, cette émulation où tout le monde se lève et se met à danser.
Comme dans une comédie musicale.
Mais c'est ça. En fait, je crée ma vie comme une comédie musicale. Je fais semblant d'être dans une comédie musicale et je crois que c'est pour ça que je fais des spectacles.
Quand vous découvrez cette chanson... Et cette série à la télé, est-ce que d'emblée, il y a un des arts qui vous attire plus qu'un autre ?
Non, c'est vraiment tout. Et ça m'est resté. En fait, c'est marrant comme on est marqué par l'enfance. Finalement, c'est ça que je recherche toujours et c'est cette joie aussi.
C'est en 1980 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Une chanson qui dit les rêves d'envol et de célébrités de jeunes artistes en formation. D'ailleurs, dans la série, Valérie Lessort avait son préféré.
J'étais très amoureuse de Leroy. Donc c'était un peu le bad boy. Il était désobéissant. Et en même temps, c'était un génie. Donc à chaque fois, il envoyait balader les profs. Mais après, il faisait une danse fantastique. Et puis il était très beau, quoi.
Il ressemblait à quoi ?
Un grand noir musclé, moulé dans ses petits shorts. Voilà.
Devenir célèbre, vous, c'était votre rêve ?
Eh ben, pas du tout. Et ça l'est toujours pas. Mais vu que je parlais pas anglais à l'époque, j'ai rien compris. Et c'est marrant, toutes ces chansons qui reviennent des années 80, tout d'un coup, on comprend ce qu'ils disent. Parce que j'ai toujours chanté ça complètement en yaourt, quoi. Comme ça.
Donc sans savoir ce qu'ils se disaient.
Sans savoir ce qu'ils disaient.
Mais en étant gagné par l'énergie et la joie qui se dégageaient à la fois de cette série et de cette chanson.
Exactement, c'est ça la magie de la musique et de la danse, c'est qu'on est transcendé par des choses, on ne sait pas pourquoi et ça ne s'explique pas, quoi. C'est de l'instinct.
Vous, vous étiez une petite fille comment ? Vous étiez une petite fille joyeuse ?
J'étais une petite fille joyeuse jusqu'à un drame familial qui fait que, à mon avis, je suis ce que je suis maintenant. Et c'est peut-être justement la quête de cette petite fille joyeuse qui est toujours là et qui transparaît dans tout mon travail.
Ce drame familial, c'était quoi ?
C'est mon père qui a eu un accident de moto quand j'avais 15 ans. Mon petit frère avait 10 ans. On ne savait pas s'il allait mourir ou pas, dans des centres de rééducation, de réanimation d'abord. Et en même temps, surtout avec mon petit frère, on a développé un humour salvateur pour essayer de se sortir de ça. Et puis cette conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, elle est très précieuse finalement dans la vie.
Parce qu'elle nous plonge dans une forme d'urgence de vivre ?
Oui, parce qu'on se rend compte que la vie est extrêmement précieuse et moi ça m'a donné un courage fou. Rien ne me fait vraiment peur en fait. Et donc j'affronte chaque chose plutôt avec appétit et avec joie.
C'était donc Frédéric, le choix de Valérie Lessort.
Valérie Lessort, dont le spectacle Code Espoir se joue jusqu'au 8 juin. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris.
Merci Frédéric, je vous dis à lundi. Quelques remerciements en ce vendredi et avec quelques pas de danse, s'il vous plaît, à la technique cette semaine. Merci à Julien Dumont, Loïc Frapsos et Thomas Allard. À la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Estelle Schmitt et Sébastien Sabiron, assistés de Sylvain Lesage, Nicolas Sabah, Rachid Zourdani et Swad Bellani. Je n'oublie pas notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet, ainsi que nos standardistes. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Quel est le programme aujourd'hui?
Mon invité au carré, il s'appelle Julien Perrault, il est naturaliste.
À tout de suite.